Thank you. Le quatuor Emerson dans le premier mouvement du cinquième quatuor à cordes en mi bémol majeur de Felix Mendelssohn, le numéro 3 de l'opus 44 qui comprend donc trois quatuors à cordes. Bonsoir à vous et la bienvenue dans le Bazar d'Espace 2. C'est une émission que vous pouvez entendre en direct du lundi au vendredi à 17h30 ainsi que dans sa version best-of-fifi avec tout un panaché des bons moments et des moins bons moments de la semaine le samedi au même horaire. La programmation de cette émission est consultable sur l'application Play RTS pendant la diffusion de celle-ci ou alors sur la page internet rts.ch/bazar pour toutes les émissions déjà diffusées. Pour plus de détails, vous pouvez toujours nous écrire à bazar@rts.ch, B-A-Z-A-R. Thank you. C'était successivement les 5e et 6e mouvements de la 2e partita pour clavier en Do mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété au piano par Murray Peraya. Nous continuons avec du Mozart, après un maître, un autre. Bach, Mozart, voilà. Nous rejoignons Mozart à Paris, nous sommes en 1778, au mois de mars, c'est juste le printemps, il vient de quitter Mannheim, il est en compagnie de sa mère, et il débarque donc dans la ville Lumière. Il rencontre la bonne société parisienne par le truchement du baron de Grimm, un musicien qui lui permet de faire la connaissance d'un amateur éclairé, le duc de Guines. Il joue de la flûte, mais il joue textuellement de la flûte. Il s'agit pas, c'est pas une image, vous comprenez. Il fait de la flûte. Bon, Mozart se voit commander une œuvre un peu particulière, un double concerto. Et qui deviendra un concerto pour flûte et harpe, avec un accompagnement d'orchestre, tout simplement parce que le monsieur joue de la flûte, toujours au premier degré, et sa fille joue de la harpe. Voilà, une espèce de pièce papa-fifi à partager en famille. Une pièce qui va permettre à Mozart de travailler à autre chose que donner des leçons, puisque c'est ainsi qu'il vivait à cette époque-là. Et le métier de professeur, eh bien, le dérangeait un peu. On peut lire au mois de février, donc un mois avant cela, une lettre qu'il adresse à son père, qui est resté à la maison, et qui critique un peu cette situation de professeur, ce que le père prend assez mal, parce que Léopold Mozart, eh bien, c'est tout simplement son métier. Il dit « C'est un genre de travail pour lequel je ne suis pas fait. Je donne volontiers ma leçon par complaisance, surtout quand je vois à quelqu'un du génie la joie et le désir d'apprendre. Mais être obligé d'aller à des heures régulières dans une autre maison ou d'attendre chez moi, j'en suis incapable, même s'il y a de l'argent à y gagner. Je laisse cela aux gens qui ne savent rien d'autre que jouer du piano. » Alors ça, le père, évidemment, il le prend pour lui. « Je suis un compositeur, » souligne-t-il. Componiste, né pour être Kapellmeister, je ne dois ni ne puis enterrer ainsi le talent de compositeur que Dieu m'a donné dans sa bienveillance. Je le dis sans présomption, car j'en suis plus que jamais conscient. Donc voilà, petite pointe d'arrogance, mais comme c'est dit avec beaucoup de piété, ben ça passe. C'est pourtant ce qui arriverait si j'avais beaucoup de nombreux élèves. Si j'avais de nombreux élèves tout court. C'est un métier qui me dérange beaucoup et je préférerais, manière de parler, négliger le piano que la composition. Car le piano n'est qu'un accessoire pour moi. Un accessoire d'ailleurs très important, Dieu merci. Un accessoire, le piano, quand on habite un studio sous gare à Lausanne et qu'on a un piano à queue, c'est plus qu'un accessoire, on va parler de mobilier à ce stade-là. Bon, nous écoutons le premier mouvement Allegro de ce concerto pour flûte, harpe et orchestre en Do majeur de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. C'était Emmanuel Cesson à la harpe et Philippe Bernold à la flûte, accompagné de l'Orchestre de Chambre de Paris, sous le geste flûtistique du flûtiste lui-même, parce qu'il est difficile d'avoir un geste flûtistique lorsqu'on tient une baguette dans les mains, par exemple, pour interpréter ce premier mouvement du concerto pour flûte, harpe et orchestre en do majeur de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous nous rejoignez dans le Bazar d'Espace 2. Eh bien, bonsoir à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Nous allons continuer avec un peu de danse. Ce sera de la danse à quatre mains. Oui, parce qu'on est toujours mieux, accompagné à deux. Allège la palissadée sans aucune vergogne. On garde. s'agissait de 3 des 16 valses pour piano à 4 mains de Johannes Brahms, et au bout de ces 4 mains se trouvaient respectivement Hélène Mercier et Cyprien Katsaris. Inextinguible. Inextinguible. C'est un adjectif qu'il est difficile de placer dans une conversation, puisque ça décrit quand même quelque chose d'assez précis, ou une situation précise. Par exemple, quand on part en forêt faire des grillades et qu'on prend pas vraiment ses précautions, qu'on fout le feu au bois, tout à coup, la forêt devient inextinguible. Sauf si on a attaqué le problème assez tôt. Ou bien on peut parler d'une soif inextinguible, ce qui offre un parallèle assez intéressant, parce qu'on parlait d'un feu inextinguible, puis là c'est quelque chose qui est en rapport avec l'eau et c'est aussi inextinguible. Quoique la soif, c'est une forme de feu intérieur, vous en conviendrez. Un rire peut être inextinguible aussi. Lorsqu'on a un fou rire, eh bien voilà, c'est un rire inextinguible. Comparable au feu aussi peut-être. Est-ce que quand on rit, il y a une forme de brasier en nous? Sans doute. Bon, une quatrième manière d'utiliser cet adjectif, c'est lorsqu'on l'associe à la quatrième symphonie du Danois Carl Nielsen. Sa quatrième symphonie qui est assez sombrette dans le contenu, puisque il s'agit de rassembler les pensées sur l'éthique que le compositeur avait à ce moment-là et qui tiennent dans une sorte de motto qu'il écrit en sous-titre sur la partition publiée. La musique, c'est la vie et partant, inextinguible. Vous voyez, il a mis le inextinguible. Donc la musique, c'est comme la vie. Et comme la vie est inextinguible, la musique l'est aussi. Je vous propose qu'on n'écoute pas de la musique inextinguible dans la mesure où elle dure 24 heures. Mais déjà, nous allons nous payer le quatrième mouvement de cette quatrième symphonie de Carl Nielsen. Celle qui est donc inextinguible.
Thank you. Thank you.
C'est Gustavo Dudamel, le chef vénézuélien qui dirigeait l'orchestre symphonique de Göteborg dans la musique de Carl Nielsen, le quatrième mouvement de sa quatrième symphonie, celle qui est dite inextinguible. Je pense que rarement, dans une situation du quotidien, on aura autant dit l'adjectif inextinguible. Enfin, ça c'était si vous étiez avec nous il y a quelques minutes. Alors je vous le dis encore une fois, comme ça vous aurez pu au moins en avoir trois exemplaires. Inextinguible, voilà. Je pense que ça suffit dans un premier temps, et puis vous allez sans doute retrouver cet adjectif si vous faites une formation continue de pompiers volontaires, ou alors si vous allez randonner cet été et que vous êtes avec des amis et tout à coup vous arrêtez, vous dites « mais j'ai une soif inextinguible » et puis tout à coup vous mettez à boire une goutte. Voilà, sans ça c'est assez difficile à placer. À moins qu'il vous prenne l'envie subitement d'écouter un extrait de la symphonie inextinguible de Carl Nielsen. Ce qui fait que j'ai quand même rajouté 5 fois inextinguible là dans les dernières secondes. Comme ça tout le monde l'a eu, c'est parfait. Nous poursuivons avec une sonate pour violoncelle et piano d'Édouard Lalo, celle dite celle-ci elle n'est pas dite inextinguible. Dominique Ponty au piano et Étienne Péclard au violoncelle. Thank you. Le premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano d'Édouard Lalo par Étienne Péclard au violoncelle, accompagné de Dominique Ponty au piano. Il y a un million, beaucoup, parce qu'on les a pas comptés. Alors pour pas dire de mauvais chiffres, on va dire beaucoup. Il y a beaucoup, avions-nous commencé à dire, de lieux communs liés aux yeux. Notamment une phrase qu'on aime bien entendre et dire, les yeux sont les miroirs de l'âme. Alors c'est assez vrai parce qu'on a déjà toutes et tous fait l'expérience d'une impression de lecture à travers le regard de quelqu'un. On arrive à capter la personnalité d'une personne en lisant dans ses mirettes. Ou alors on se persuade qu'on arrive à comprendre quelque chose de la personnalité de cette personne à travers ses yeux. Bon, pour varier un peu de ce lieu commun donc, lisons les paroles de cette chanson de Michel Legrand que nous allons écouter, qui nous dit ceci qui est très charmant. Un regard, c'est la promesse d'un frisson.
Her eyes, warm and quiet lovers, gazing, drowning, lost in what they see is worth. Strangely unrevealing, question, answer, careful as can be, what they see with their eyes. keep.